Bonsoir. 34 personnes tuées en 48 heures. C'est le bilan provisoire officiel des attaques perpétrées par les EDF dans les territoires de Mambasa et Urumu dans la province de l'Ituri. Pour les cas des personnes tuées à Mambasa, l'administrateur du territoire précise que les corps mutilés des victimes ont été découverts après l'attaque. De son côté, le porte-parole des FRDC en Ituri a déclaré que l'armée est en pleine opération pour stopper ces violences des ADF qui s'intensifient en Ituri. Comment expliquer la progression des ADF en Ituri? Que faire pour arrêter les tueries de ce groupe armé dans cette partie du pays? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 5 février 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Uchichan Boulé, il est gouverneur intérimaire de la province de l'Ituri. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelikouté, bonsoir à tous les auditeurs.
Jackson Laoussé, vous êtes député national élu du territoire d'Irumu en Ituri. Vous êtes cadre de la coalition Lamuka, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Et Timothée Tchaoumbo, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée, bonsoir.
Bonsoir et bonne année, madame Kelikouté.
Merci, vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ilunga Jeff. Jeff, depuis Uvira au sud Kivu, ces attaques prouvent que les ADF ne sont pas encore défaits, comme l'a déclaré il y a quelques semaines le porte-parole des FRDC. Il faut réellement une collaboration sincère entre la population, l'armée et la police pour combattre ces rebelles. Magloire Salé dit ceci, la progression s'explique malheureusement par un système sécuritaire défaillant. Merci de nous suivre, partenaire des sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
En Ituri, 23 morts ont été comptés depuis dimanche jusqu'à hier mardi, victimes des présumés ADF dans cette localité du groupement Bangolé à 96 km de Mambasa Centre. Selon l'administrateur du territoire de Mambasa qui avance ces chiffres, les corps des victimes qui sont mutilés ont été découverts après l'attaque de ces hommes armés. Dans son rapport publié ce mercredi, l'Organisation des défenses de droits de l'homme, Convention pour le respect des droits de l'homme, indique que ce bilan pourrait s'alourdir car les recherches se poursuivent dans la région. Martial Kiza pour les détails.
Ce carnage attribué aux présumés rebelles ougandais des ADF est enregistré dans les villages de Mandumbi, Makilidou, Motoloi, Moussoukousaboua, Massingé, Kabiasa et Sangolo, à chefferie de Babila Babombi. Selon l'administrateur du territoire de Mambasa, Idriss Koma Kokodila, ces assaillants venus de la forêt de Mangida au nord Kivu se sont introduits simultanément dans ces entités. Ils tuent à coups de machette toute personne pendant leur passage. Au total, 23 corps sont déjà ramassés en espace de 3 jours, indique cette autorité territoriale. L'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, indique que 13 corps ont été découverts le dimanche dernier, dont 6 à Makilidou et 7 autres à Moussoukousaboua et Motolé. 10 autres cadavres ont été découverts à Massenze et Kambiasa hier mardi. Les coordonnateurs de cette structure, Sivan Mwenda Kasereka, indique qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Les porte-parole des FARDC à l'Ituri déclarent que les forces armées sont à pleine opération pour stopper ces violences des ADF qui s'intensifient à Ituri. Pour rappel, 11 autres personnes ont été tuées lundi par des présumés ADF à Ndalia, au sud d'Irumu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Martial Kizabiamungu pour tous ces détails. Uchirichan Boulé, je rappelle que vous êtes gouverneur intérimaire de la province de l'Ituri, cette province qui fait face aujourd'hui à une insécurité grandissante. Monsieur le gouverneur, quelle est la situation d'abord ce soir dans les territoires de Mambasa et Irumu?
Merci Madame Kelikouté. Comme vous l'avez suivi à travers le témoignage de l'administrateur du territoire de Mambasa et d'autres sources, nous voudrions avant toute chose présenter nos condoléances les plus sincères à toutes les familles touchées par ces atrocités. Les mêmes condoléances, nous les présentons à l'ensemble de la population de la province de l'Ituri et particulièrement celle de Mambasa et de Djougou, Mahagi, Irumu, parce qu'aujourd'hui tous les territoires sont presque touchés par l'insécurité. Et donc s'agissant des tueries qui ont eu lieu dans les territoires de Mambasa et de Irumu attribuées aux éléments ADEF, il faut dire que la situation actuelle est une situation de peine, est une situation de douleur, est une situation de détresse pour la population et que toute la nation compatit avec la population victime de ces atrocités. Voilà, la province est endeuillée malheureusement sur tous les fronts, mais là, nous parlons des faits qui ont eu lieu, des tueries qui ont eu lieu dans les territoires du Moumou et Mambasa attribués aux ADEF, aux éléments ADEF. Voilà.
Alors, on parle de 34 personnes tuées. Est-ce que les bilans restent le même ou bien il a été revu à la hausse, monsieur le gouverneur? 34 personnes tuées pour les deux territoires, donc Mambasa et Irumu.
Au moment où nous parlons, madame, il est difficile de retenir ce bilan comme étant définitif. Et le bilan reste encore provisoire et très flottant. Parce que vous l'avez suivi, même dans la publication de l'ONG qui a parlé de ces chiffres, les recherches sont en cours et qu'au fur et à mesure que le temps passe, on découvre encore des corps qui sont en décomposition avancée. Donc au niveau officiel, à cet instant, au niveau de la province, nous sommes en difficulté de pouvoir confirmer ces chiffres de 34 parce que les chiffres sur lesquels il y a de la spéculation varient entre 25 et 40. Et donc, à ce moment ici, nous pensons que 34 serait une moyenne, mais il est pratiquement impossible de dire que ce serait le bilan définitif et que les chiffres n'ont pas encore avancé non plus. Toute la journée d'aujourd'hui, les hommes qui sont sur terrain pour la fouille n'ont pas encore communiqué de nouvelles données.
Alors, on attribue, on parle des présumés ADEF qui seraient à la base de ces massacres. Est-ce que vous confirmez que ce sont les ADEF ou bien c'est un autre groupe armé qui serait à la base de toutes ces tueries?
Il est vrai, aujourd'hui, ces tueries sont attribuées aux ADEF parce que il y a eu des indices et les populations ont aperçu des éléments qui s'apparente effectivement aux ADEF et que le mode opératoire a suivi, n'est-ce pas, ces actes qu'on ne peut que déplorer. Mais aussi, nous reconnaissons bien évidemment que dans le territoire de Mambasa, par exemple, il y a une sorte de prolifération des groupes armés. Aujourd'hui, nous en dénombrons plus ou moins 5 qui opèrent dans la zone et dont la plupart opèrent, n'est-ce pas, dans la chefferie de Babila Babombi. Et de temps en temps, ils mènent des attaques contre les agents de la riposte. Mais là, le mode opératoire, en tout cas, nous amène à conclure que ce sont des actes attribuables aux ADF qui opéraient ces derniers jours. Ces deux derniers jours.
Alors, comment vous expliquez-vous, monsieur le gouverneur, cette progression des ADEF en Ituri? On sait qu'au mois de décembre, il y a le député provincial Omer Kaindo qui avait alerté les services de sécurité sur une possible infiltration des éléments identifiés aux rebelles ADEF dans le territoire de Mambasa en Ituri. Quelles mesures avaient été prises pour éviter cela? Aujourd'hui, ces rebelles sont là, ils ont massacré. Est-ce qu'il y avait des mesures prises pour éviter cela?
Madame, on peut bien vouloir citer l'alerte d'une personnalité considérable, mais nous disons que au niveau du gouvernement provincial, ce n'est pas une question d'une alerte d'une seule journée ou d'une seule fois. Donc c'est tout le temps que nous travaillons sur la question. Dès lors que le président de la République a décidé d'établir à Beni un état-major avancé pour faire face, n'est-ce pas, aux actes des ADEF, et au niveau du gouvernement provincial, nous avons réuni tous les commandements de l'armée en Ituri, la 31e brigade dont Le siège a été délocalisé à Komanda. Et le commandant 32e région qui est sur place à Bounia, ainsi que le secteur opérationnel de l'Ituri, toutes ces autorités militaires ont été appelées à une réunion d'urgence pour essayer de prévenir cette situation. Nous avons nous-mêmes à la tête du comité de sécurité au niveau provincial conduit plusieurs missions à Mambasa, notamment à Biakato, et puis à Tchabi, dans les territoires d'Irumu, où il y a un triangle assez dangereux et béant par lequel on pensait qu'il fallait couvrir cette zone. Mais comme au niveau stratégique, on ne peut pas placer les militaires devant chaque porte et sur chaque sentier, donc voilà.
Est-ce que ça veut dire, monsieur le vice-gouverneur, que les mesures prises n'ont pas été efficaces?
Non, nous ne pouvons pas dire à ce jour que ces mesures n'ont pas été efficaces, mais nous pouvons reconnaître que ces mesures n'ont pas permis à ce que la couverture donne les résultats escomptés. Donc c'est ça un peu la situation. Malheureusement, nous déplorons un nombre important de morts. Et nous pensons que l'essentiel maintenant, c'est de revoir tous les dispositifs qui ont été mis en place pour que ce genre de situation macabre ne se reproduise plus.
Merci, monsieur le gouverneur Jackson Laoussé. Vous êtes député national élu du territoire d'Irumu, en Ituri, cadre de la coalition Lamuka. Vous avez déposé une lettre ouverte aujourd'hui au bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, justement pour dénoncer ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Vous, comment vous expliquez cette situation?
En fait, madame, merci pour votre invitation. Je profite à ce stade de saluer d'abord l'excellence qui venait d'intervenir, excellence monsieur le gouverneur intérimaire. Je salue aussi le co-débatteur qui est à l'extérieur. Nous sommes très heureux de cette invitation. En fait, madame, dans 48 heures, deux jours donc, 48 heures, 34 morts provisoirement. Le bilan doit s'alourdir. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est responsable quand les gens peuvent mourir comme ça? Coronavirus est en train de tuer les gens en Chine. Et c'est tout le monde entier qui se mobilise pour chercher à savoir d'où vient le coronavirus et comment est-ce qu'on peut arriver à arrêter ça. Mais chez nous, c'est plus de deux décennies que les gens sont en train de mourir chaque jour. Les gens meurent. Et aujourd'hui, nous nous disons qui est en train de repousser qui. Parce que nous sommes dans une zone opérationnelle à Beni et nous sommes dans une zone opérationnelle à Ituri. Toutes ces deux provinces, toutes ces deux entités sont en opération. Mais qui repousse qui? Parce que nous, on croyait, si on va parler des ADF, ça sera très grave, parce que nous, on croyait que ADF restait à Beni et nous sommes en train de les contenir. Nous sommes en train de limiter ces effets négatifs de manière que cela ne puisse pas se propager. Et du coup, l'ennemi est en train de vouloir nous montrer que lui est en train de progresser à continuer à conquérir d'autres terrains. Aujourd'hui, elle se manifeste, n'est-ce pas, à Ituri. C'est désolant. Et nous nous disons, nous nous interpellons. C'est ce qui motive même cette lettre-là. Madame, vous croyez que c'est facile que je sois aujourd'hui dans votre studio? Non. Nous sommes en vacances parlementaires. Je ne devrais pas être dans ce studio. Je devrais être sur terrain, chez moi ou bien dans la province, pour aller travailler. Mais je ne peux pas travailler. Je vous informe que mon garde
du corps... À cause de la situation sécuritaire?
Je ne saurais pas circuler dans mon territoire, madame. Parce que quand on parle d'Irumu, je suis l'élite d'Irumu. Quand on parle d'Endalia, là où on a tué 11 personnes, c'est dans ma chefferie, de Wallis et Vonkoutou. Donc je ne peux pas faire la vacance parlementaire, dites-moi. Nous allons où?
Mais il y a quand même la population sur place qui compte sur vous, qui serait peut-être, cette population serait peut-être contente de vous voir à ses côtés pendant ce moment difficile.
J'étais là, mais je devrais revenir ici parce que les institutions, l'armée, la police, le service de sécurité sont des services nationaux. Le responsable de ces services sont ici. Ce n'est pas à la population de se sécuriser, ce n'est pas à moi de sécuriser cette population. Je suis venu effectivement et je ne devrais que commencer par l'Assemblée nationale parce que je suis de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que cette lettre ouverte est déposée à l'Assemblée nationale pour demander qu'il y ait une mission dirigeante de l'Assemblée nationale à Beni, à Irumu et à Djougou pour aller parler avec la société civile, pour aller parler avec les services de sécurité qui sont sur place, afin que nous tous nous ayons la même coopération des choses, de manière que d'ici la rentrée parlementaire, que les choses sérieuses soient dites. Vous savez, aujourd'hui, la priorité de ces pays, c'est la sécurité à l'Est, madame. On peut bien bon faire tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons bien bon faire tous les projets que nous pouvons faire. Mais aussi longtemps que la population va continuer à mourir à l'Est, madame, au risque de ne pas faire grand-chose. Parce que la vie, elle est sacrée. On ne peut pas égaler la vie des hommes avec tout ce que nous pouvons faire. Donc, mon objectif ici à Kinshasa, c'est de mobiliser toutes les institutions, à commencer par l'Assemblée nationale, pour que nous puissions prendre à bras le corps ce qui se passe à l'Est, afin de le limiter, parce que nous, on vient d'assister à des morts de trop.
Alors, vous qui revenez de là, quelle est exactement la situation sur place?
La situation sur place fait état que la situation sécuritaire, parce qu'il y a deux niveaux de faire la lecture. La souffrance de la population se pose à deux niveaux. La situation sécuritaire est précaire. À 18h, à dépasser 18h, les gens ne peuvent pas circuler d'un village à un autre. Ça pose problème. Au-delà de 18h, aucun voyage ne peut être organisé à une distance de 10 km. Ça pose un problème. À cela s'ajoute, madame, la situation humanitaire. La situation humanitaire est précaire. Aujourd'hui, nous parlons ici de la gratuité scolaire. Mais chez nous, à l'Est, dans la province de Nord-Kivu, dans la province de l'Ituri, on ne parle pas de la gratuité. On parle, n'est-ce pas, de la neblage. Parce qu'il y a des enfants qui, école gratuite ou pas gratuite, les enfants ne vont pas à l'école. Et à quoi cette gratuité nous profite? On doit d'abord commencer à sécuriser pour que la gratuité puisse venir après.
Donc, l'armée n'est pas présente sur place?
L'armée est présente, mais jamais. C'est ça la réalité. L'armée est présente, l'armée est en train de travailler, mais à côté de ça, le jamais. Parce qu'une personne tuée, deux personnes tuées, c'est quand même, ce sont des morts quand même, qu'on doit prendre en compte. Parce que chez nous, nous banalisons les choses. Mais dans d'autres siècles, 10 personnes, 5 personnes tuées, c'est toute la nation, c'est le drapeau qu'on met à Berne, hein? Ce drapeau qu'on met à Berne. Vous voulez me dire qu'il y a 34 personnes tuées. Et au niveau national, comme s'il n'y a rien. Alors, au niveau national, comme s'il n'y a rien. On devrait décréter une journée de deuil pour ça. Parce que c'est un grand nombre de populations qu'on vient de tuer. Parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants innocents qui sont morts dans ça. On devrait décréter une journée de deuil à la mémoire de toutes ces personnes tombées. Ah donc, il y a des problèmes sécuritaires réels qui se posent. Et à cela s'ajoute le problème humanitaire. La population de chez nous, de l'Est, vive de l'agriculture. Et une population qui vit de l'agriculture, quand on les met en déplacement intempestif, dites-vous, la suite, c'est catastrophique.
Merci, Jackson Aoussé, Timothée Tchaombo, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Quelle lecture vous faites de cette situation? Quand on parle ADF, on voit beaucoup plus béni. Aujourd'hui, l'ADF a progressé jusqu'en Ituri et a massacré des civils. Comment vous expliquez cette situation?
Les explications vont à trois niveaux, madame. Je salue le député avec son intervention qui touche le cœur, puis le gouverneur. Mais je présente aussi les condoléances à tous mes compatriotes, que ce soit d'Ituri comme de Béni. D'abord, le problème, c'est sémantique. On continue jusqu'à présent de parler des IDF, et on parle des rebelles. Les informations analytiques à ma possession ne me permettent pas de parler des IDF parce que ces rebelles sont présumés se rebeller contre le gouvernement ougandais. Ces rebelles ont trouvé la base arrière au Congo en Ituri, disons comme ça, et même toute cette région-là jusqu'en Ituri. Donc, sur le plan tactique, ces rebelles ne peuvent pas s'attaquer à la population qui lui donne une base arrière. À partir du moment où cette thèse reste vrai, parce que c'est comme ça, cette population-là, je veux dire, ces rebelles n'ont jamais inquiété le gouvernement ougandais, il faut savoir qu'à ce moment-là, à partir du moment où ces rebelles s'attaquent aux populations, c'est que ces rebelles deviennent au service d'une autre force dont on doit savoir qualifier. C'est un petit peu comme le FDLR qui, depuis toujours, n'est plus une menace pour le Rwanda, et le mécanisme conjoint entre les Nations Unies et les services spéciaux de l'armée ont toujours mis la main sur les FDLR qu'on rapatrie au Rwanda, et qu'elle retrouve aux côtés du CDPM 23, etc., etc. Moi, je peux aujourd'hui acheter auprès de la Fondation Hirondelle et des Nations Unies Radio Okapi, mais je peux garder le nom Radio Okapi. Mais ce n'est plus les Nations Unies et la Fondation Hirondelle qui est propriétaire, ça devient M. Timothée qui est propriétaire. Au Kivu, dans Beni comme Ituri, les IDF deviennent l'étiquette. Il y a une autre force qui est derrière, ces rebelles-là qui, en principe, doivent s'attaquer au Rwanda. Ça, c'est un premier élément analytique. Un deuxième élément, c'est que j'ai toujours parlé de la faiblesse de l'État, parce que ces rebelles-là, je les appelle agresseurs, sont pratiquement très informés que les services spéciaux de l'État, je dis le service de renseignement militaire, viennent opérer, que ce soit au niveau de Beni, comme au niveau de Mambasa. Ils opèrent dans les zones où se trouvent les militaires, mais au moment où les militaires ne sont pas en opération active. Je parle de la complicité de l'armée quand, par exemple, pour Beni, on est en train de mener des opérations à Madina, alors qu'on ne mène pas les opérations dans les triangles de la mort, là où se trouvent les opérations, je veux dire, les présumés IDF. Je parle de l'échec du mécanisme régional, tout simplement parce que, il vous souviendra, dans un passé récent, que l'Ouganda, comme le Rwanda, ont aidé Laurent Désiré Kabila à déloger Mobutu et qu'ils sont en train de se payer la facture de la guerre en contrôlant les zones minières du Kivu. Sur le plan international, Madame Kélikouté, c'est très important. Nous sommes de plein pied dans la théorie de François Tchoual qui parle de contrôler et contrer, ou bien contrer, contrôler. Cela se passe dans les zones minières, là où les grands groupes, les multinationales, ont besoin de mettre la main sur le minerai. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve une population hostile à leur plan? On doit contrer cette population par des méthodes de massacre. On va transformer cette zone à une zone de non-droit. On peut tuer cette population. La communauté internationale ne s'émeut pas. Aujourd'hui, si on peut tuer un éléphant ou un crocodile ou un animal qui meurt en Irlande ou bien en ceci, cela, vous verrez que la communauté internationale, les grands médias parleront. Mais là, c'est 34 personnes qui meurent. Les grands médias internationaux n'en parlent pas et l'ONU ne s'en préoccupe pas. Ça veut dire qu'on est entré de plein pied dans une zone de non-droit parce que les multinationales ont les yeux sur le minerai. Et là, c'est la guerre froide et les éléments en possession sur le plan analytique, m'indique que nous sommes de plein pied dans une guerre froide liée à la transition écologique, dont la plus grande phase est la transition énergétique. Et la RDC a plus de 60% des minerais qui rentrent en compte dans la transition énergétique. Donc, nous sommes dans une situation où la RDC doit contribuer pratiquement à l'équilibre de la respiration de la race humaine sur Terre. Et les entreprises qui vont contribuer à la diminution de la pollution parce qu'il faut fabriquer des voitures non polluantes avec du cobalt, avec des minerais, je veux dire du coltan, etc. Parce que les grands groupes veulent multiplier en termes d'or, de ceci. Les minerais qui se trouvent dans le Kivu. Mais qu'est-ce que ces grands groupes font? Ils arrivent dans le pays voisin. Les grands groupes se trouvent au Rwanda, se trouvent en Ouganda. Mais ces pays ne sont pas producteurs, ils n'ont aucune mine. Le Rwanda ne peut pas nous donner les taux d'exploitation dans ces mines de coltan, de l'or. Parce qu'ils n'en ont pas. La géographie que j'ai apprise au primaire me disait que le Rwanda est un pays producteur du thé.
Merci.
Et de l'eau de vache. Mais à partir de quel moment le Rwanda produit du coltan? Et ces grands groupes financent en armes les groupes armés pour que ces groupes armés revendent au gouvernement rwandais et burundais ces minéraux. Et ces grands groupes rachètent de là, c'est de ça qu'il s'agit.
Merci Timothée Tchaoumbo. On va vous redonner la parole tout à l'heure pour la suite de notre émission. Mais avant cela, on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur intérimaire, cette réaction qui nous vient du Sud Kivu.
Germain Tiranira Zagabe, à partir du Sud Kivu, les ADF font comme s'ils sont dans leur propre chef et c'est pour cette raison qu'ils avancent déjà jusqu'à Ituri. Et cela montre la négligence des FRDC dans ce dossier, car il y a tous les moyens, mais n'arrive pas à neutraliser ces assaillants. Et toutes ces tueries se font aussi et aux yeux des autorités du pays. Et bien donc, le gouvernement devrait traduire tout ce qui se fait en justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi.
Monsieur le gouverneur intérimaire, je vais ajouter aussi cette réaction de Dieu merci Boutombo qui dit ceci. Parfois, je me pose trop de questions. Pourquoi les ADF n'attaquent jamais l'Ouganda et le Rwanda? Ils s'opposent à qui ou à quoi ici en RDC? Le gouvernement doit prendre des mesures drastiques pour que ces ADF rentrent dans leur pays.
Alors, merci Madame Kelikouté pour ces compatriotes qui s'inquiètent, n'est-ce pas, de l'avenir de la République démocratique du Congo, leur pays, notre pays. Et donc, je voudrais avant de intervenir sur les préoccupations exprimées par nos compatriotes, revenir sur quelques interventions de l'honorable Aoussé que je salue en passant. En fait, il évoque la conquête, n'est-ce pas, d'autres zones par les ADF. Je voudrais préciser qu'il y a lieu de préciser, il y a lieu de relativiser cette question. Aujourd'hui, parler de la reconquête, ça signifierait que les ADF ont trouvé une zone en Ituri où ils se sont installés et qu'ils opèrent, ils ont un état-major. Ils s'organisent et qu'à partir de là, ils organisent des incursions ou des attaques. Les informations à notre possession en ce moment ne confirment pas cette hypothèse. Ça signifie qu'ils ont fait des entrées, ils sont venus opérer et on les a vus repartir. Les traces sont là, c'est qu'à leur retour, ils ont fait encore des dégâts dans une entité, n'est-ce pas, frontalière du Nord Kivu. Et qui partagent la frontière avec l'Ituri. Donc, ce qui est vrai, on observe qu'ils font des entrées et puis ils repartent. Il est vrai, il y a toujours parmi eux des reliquats qui peuvent peut-être rester dans la forêt parce que personne ne peut arriver.
Mais monsieur le vice-gouverneur, vous dites qu'on observe, ils font des entrées et puis ils repartent. Vous laissez faire, les autorités laissent faire?
Non, on ne laisse pas faire. Je voudrais vous dire par la suite ce que les services font, ce que les autorités font. Et donc ça, c'était pour juste préciser que jusque-là, on n'a pas la certitude que les ADF ont créé un bastion sur la terre itourienne et qu'ils opéreraient à partir de là. C'était pour clarifier cette question-là et tout à fait d'accord des conséquences évoquées par l'honorable député, par la détresse de la population itourienne et du Nord Kivu. Les chercheurs évoquent notamment la question des paravents, que l'ADEF servirait aujourd'hui de paravent. C'est difficile de contester une telle hypothèse. Cela est possible et que ça mérite effectivement des investigations avancées pour pouvoir en établir, n'est-ce pas, la véracité. Les rebelles sont plus informés que les services. Je pense pas nécessairement. Mais ici, comme on le dit toujours...
On parle aussi des complicités au sein des services de sécurité.
En tout cas, je ne peux me permettre de confirmer une telle thèse parce que nous pensons que les services de sécurité sont au service de la population congolaise. À ce qui concerne l'Ituri, tous les services sont mobilisés à pouvoir arrêter cette histoire et je crois que je ne suis pas un petit dieu pour pouvoir me placer dans le cœur des gens pour savoir ce qu'ils pensent dans le fond de leur cœur. Mais manifestement, tout le monde est mobilisé pour pouvoir traquer tous les bandits qui s'adonnent à la tuerie et d'autres actes, n'est-ce pas, que l'on déplore. Et donc, notre compatriote Germain évoque la négligence de FRDC. Je pense que c'est trop fort d'arriver à tirer une telle conclusion et que peut-être des fois, on ne se met pas dans la situation réelle. Je pense, je l'ai dit ici, les autorités, n'est-ce pas, de la haute hiérarchie ont décidé de délocaliser, par exemple, les commandements de la 31e brigade qui était à Mambasa pour commandant.
Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, monsieur le gouverneur.
Pour porter le dispositif dans ce triangle afin que la pression exercée sur les ADF au niveau du Nord Kivu ne leur donne pas l'occasion d'entrer en Ituri.
Mais ils entrent quand même, mais ils ont quand même l'occasion d'entrer et de repartir.
Exactement, comme vous le savez, en France ou dans les pays les plus équipés, et de temps en temps, nous apprenons que les malfrats ont opéré, ils ont frappé ça et là. Nous déplorons ce qui nous arrive, mais nous disons que les services ont donné ce qu'ils peuvent donner. Mais aujourd'hui, on constate, au vu de tout le monde, que ces dispositifs, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été mis en place, ont montré quand même certaines faiblesses et qu'il y a des choses à repenser.
Merci, donc, monsieur le vice-gouverneur. On va passer aux solutions tout à l'heure. Monsieur Jackson Laoussé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangui, dans la province de la Tchopo.
Jacques Befonga, depuis Isangui, province de la Tchopo. Situation en sacre et tuerie en Ituri, un très délicate. La résistance de l'ennemi témoigne que ces derniers, insuffisamment appuyés, et bénéficient d'une complicité solide à tous les niveaux. Comment comprendre que, malgré l'offensive des FARDC et la présence des casques bleus, ce soi-disant ADF intensifie toujours leurs actions? C'est pourquoi je pense qu'en plus de ce qui fait actuellement le gouvernement, d'autres stratégies et mesures méritent d'être envisagées. Mais qui ne demande pas d'être divulgué aux médias.
Jackson AOC, vous avez suivi la réaction de cet auditeur. Il propose qu'on mette en place d'autres stratégies justement pour finalement mettre fin à ce phénomène ADF.
Tout à fait. En fait, nous, Jackson, moi, je ne suis pas contre la guerre. La guerre, il y en aura toujours, parce que la guerre, il y en a toujours à travers le monde. Mais moi, je suis contre le sabotage. Parce que ici, ce n'est pas la guerre. Ici, ce n'est pas la guerre. Ici, c'est le sabotage. Ici, c'est un groupe déjà qui vient pour saboter le peuple. Parce que ce civil-là, ce civil tué, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec une guerre? Ils sont sans armes. Ils sont là, ils sont sans armes. Donc nous ne sommes pas ici dans une situation de la guerre. Parce qu'une situation de la guerre se fait entre les gens qui ont presque le même moyen, entre l'armée. Mais ici, ce n'est pas une guerre dans le vrai sens du mot. Ici, c'est une situation tout simplement de sabotage. Qu'il y a des groupes de gens qui s'organisent, ADEF que ce soit, Maïmaï que ce soit, mais ils se remettent sur la population congolaise. Avec ça, ils veulent saboter nous. Ils sabotent nos institutions. Parce que la protection des civils revient à nos institutions. Vous comprenez? Alors, si ils arrivent à faire ça, c'est pour nous remettre à défi. Pour nous dire que, attention, vous êtes en train de dire que vous êtes un pays, vous êtes un service, mais voilà ce que nous sommes capables de vous faire. Donc, avant tout, nous devons être capables de protéger notre population avant de faire d'autres choses.
Alors,
donc,
cet auditeur dit que la résistance de l'ennemi témoigne que ces derniers est suffisamment appuyé et bénéficie d'une complicité solide à tous les niveaux.
Bon, cette situation de complicité, moi, Jackson, je n'aime toujours pas trop l'aborder. Parce que complicité ou pas, la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Et nous, parce que le mal, c'est que nous sommes très plaintifs. Nous sommes trop plaintifs, nous agissons peu. Nous sommes infiltrés. Et qu'est-ce que nous faisons parce que nous sommes infiltrés? Nous devons poser les actes contraires pour que nous puissions cesser d'être infiltrés. La population est tuée. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que cela s'arrête?
Donc, moi, c'est la question. Que faire pour arrêter ces tueries de ce groupe armé dans cette partie du pays, dans l'Ituri?
Oui, là, nous sommes en train de proposer déjà des solutions. Là, nous sommes à la deuxième partie de notre émission, peut-être. Alors, je me dis, la solution, il y en a toujours. Il ne manque pas. Mais c'est question tout simplement de la volonté.
Oui, mais
la première solution, c'est la mobilisation nationale. Nous avons des institutions. Nous devons mettre la question de l'Est au centre de nos actions. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les institutions, la question de l'insécurité de l'Est, nous devons le mettre au centre et ça doit guider notre politique. Ça, c'est le premier niveau. Parce que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. La solution ne peut venir que de nous,
et d'une manière efficace et permanente. Donc je me dis, nous devons inscrire dans nos agendas d'une manière significative cette question. Il ne faut pas les traiter comme une question isolée, comme une question qui se passe quelque part. Non, non, nous devons tous nous y mettre. Pas seulement l'armée, le Parlement, c'est pour cela que j'ai déposé cette lettre ouverte, parce que nous avons aussi le mandat, nous sommes une autorité budgétaire, nous avons le pouvoir, nous pouvons émettre des lois, tout, nous pouvons recommander le gouvernement, nous pouvons orienter les actions du gouvernement, allant dans le sens de vouloir, n'est-ce pas, rectifier et modifier certaines stratégies. La deuxième stratégie, c'est que nous devons, il faut, moi je me dis, maintenant là, il faut une conférence pour l'insécurité de l'Est. Il faut une conférence qui va à, parce que le problème est circonscrit maintenant. Nous connaissons quels sont les problèmes qui sont touchés par le phénomène.
Une conférence nationale ou une conférence juste qui va concerner
Une conférence nationale exclusivement sur la question de l'insécurité de l'Est. Vous comprenez? On l'avait fait une fois à Goma. Ça a produit les effets que ça a produit, mais vu la persistance
justement, de la situation, il y a eu beaucoup de conférences sur la situation sécuritaire dans la partie Est. On sait ce que ça a donné comme résultat.
La stratégie pour
est-ce
la résolution.
Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça pourrait aider?
La question des résolutions des conflits à travers le monde nous montre que les gens doivent rester à dialogue permanent. Les gens doivent se parler d'une manière permanente et d'une manière sincère. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on s'est parlé hier et qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas pu changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens puissent se réunir, il faut que les gens puissent se parler. Parce que le traiter d'une manière isolée risque de ne pas nous donner le... En fait, deuxième, peut-être troisième, et la stratégie la plus urgente serait aussi d'appuyer nos services de sécurité qui sont sur le terrain, madame. Parce qu'ils se posent parfois des problèmes logistiques, ils se posent des problèmes financiers parfois. Nous devons être aux côtés, n'est-ce pas, de nos services qui sont sur le terrain, de les appuyer suffisamment de manière que ceux-ci puissent rester perspicaces sur le terrain, efficaces, que ça puisse permettre de répondre d'une manière propre.
Merci Jackson Laoussé, Timothée Tchaombo. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Sur le monde depuis la ville de Bounia en Ituri. Je crois que cette progression est due à l'ingouvernance de la province de l'Ituri actuellement. En tout cas, rien ne va à l'Ituri. Il n'y a que des répondants qui ont des affaires courantes. Et il y a la situation sécuritaire en Ituri est chaotique. Il y a des rebelles d'après ce tous les territoires de l'Ituri, à Yougou, à Yumu, à Mbassa, aussi à Magi, Sofaru et peut-être Pané. Mais je crois que dans la ligne où les choses vont maintenant, il y aura aussi des rebelles à Arou. Pour le terrorisme, en tout cas, on ne peut pas négocier avec le terrorisme. Peut-être que le Congo fera le temps, je ne crois pas, car dans tous les autres pays du monde touchés par le phénomène terroriste. En tout cas, il n'y a pas de médicaments avec les rebelles.
On a un souci avec la ligne de notre compatriote qui nous appelle depuis Bounia en Ituri, Timothée Tchaombo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces tueries dans cette partie du pays? L'honorable Jackson propose entre autres une conférence nationale sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi renforcer les services de sécurité sur place, en logistique, bien les traiter, voilà, mon salaire et tout là, bien motiver ceux qui sont sur terrain.
Oui, je reviens à cette stratégie. Mais je veux glaner, Salomon a parlé des autorités intérimaires. Donc, il faut qu'il y ait des institutions déjà au niveau provincial qui soient des autorités définitives. Donc, il faut résoudre les problèmes des crises du gouverneur qui se trouve à Kinshasa très longtemps. Il faut résoudre cette question-là. Deuxièmement, je souhaite parler à Salomon, lui dire que, effectivement, il y a des groupes rebelles, des groupes armés qui sont locaux, qui sont pratiquement des créseurs. Des minéraux, etc. Il faudrait parler avec ces groupes-là, le moment venu, pour les intriguer dans l'armée et faire le recyclage ou carrément les éradiquer. Et cela revient, Madame Kelly, à la proposition que vous faites. Il faudrait effectivement, et par le passé, le FARDC nous montre, et j'ai toujours dit qu'il faut donner des moyens, c'est le commandant suprême des forces armées qui est le président Tshisekedi, doit donner des moyens à l'armée avoir un service de suivi, retirer de l'état-major général, de l'état-major force terrestre et de l'état-major opérationnel les anciens officiers qui ont montré leurs limites. L'FRDC a une jurisprudence dans le passé. Lorsque vous prenez les militaires, les officiers qui viennent de l'Ouest, les Baluba, les Bakongo, les Basongue, les ceci, les cela, vous donnez à ces officiers la liberté de choisir des troupes, les éléments qu'il faut. Le général Olenga a montré cela, le général Mbunga Mabe a montré cela, le général Bauma, quand bien même il est pratiquement un peu de Kisangani, ont montré leur efficacité. Et laisser à ces officiers de choisir la ligne de communication. N'oubliez pas, madame Kelly Kouté, que la communication fait partie du pouvoir et fait partie de la stratégie. Parce que nos centraux de communication sont basés au Rwanda. Le Rwanda est impliqué dans la déstabilisation du Kivu. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'une conférence par rapport au Kivu. Il s'agit de la prise en compte par le président de la République que la situation de la défense comme de l'intérieur ne peuvent pas faire partie des accords entre le CACH et le FCC. C'est lui qui sera répondant aussi bien devant la communauté nationale, mais aussi auprès de partenaires internationaux. Le président Tshisekedi doit mener aussi une offensive diplomatique pour demander à ces grands groupes qui sont basés dans les pays voisins de venir investir en RDC. Ils achèteront le minerai, ils vont installer des usines dans ces régions minières. Nous allons prendre les groupes armés au lieu qu'ils soient, que ces éléments restent dans l'armée. Je veux dire, dans les groupes armés, les intégrer.
Il faudra conclure. Timothée, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion pour finalement trouver une solution à ce problème d'insécurité dans la partie est du pays, en une phrase?
En une phrase, le FRDC doit être efficace. Extirper des FRDC, les éléments en complicité avec ces groupes armés, mais en même temps aussi, la société civile doit prendre à cœur la situation de l'Est et traduire devant la communauté internationale et même la Cour africaine des droits de l'homme. Ces grands groupes qui sont basés au Rwanda et en Ouganda, il faut que nos avocats, nos journalistes y mettent.
Merci Timothée Tshaombo. Monsieur le gouverneur intérimaire Outil Tchane-Boulé, votre conclusion?
Tout en étant d'accord sur la nécessité d'amélioration des conditions de travail de nos forces armées de la République, nous pensons que la conférence à ce moment n'aurait des résultats positifs que s'il y a des revendications claires, mais avec des groupes qui s'apparentent aux terroristes ou opèrent à terroristes. Donc, je ne pense pas que la conférence soit en réalité la solution.
Merci.
À moins que ça aille dans le sens proposé par les chercheurs. Et donc, au niveau des institutions, je crois que nous nous remobilisons pour réévaluer nos dispositifs et pouvoir établir une nouvelle cartographie.
Merci. Monsieur le vice-gouverneur, votre conclusion, Jackson, en quelques secondes.
Les autorités locales doivent prendre en compte tout ce qui se passe sur le terrain. Ils doivent convoquer les comités de sécurité à leur niveau chaque jour, de manière qu'ils aient un tableau clair de ce qui se passe sur le terrain, parce que la vie de la population est sacrée.
Merci, Jackson. Là aussi, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.